Bonjour à toutes, bonjour à tous
et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mercredi 3 novembre et nous allons voguer sur l'actualité jusqu'à 6h30.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi.
Et ce mercredi, vous nous emmenez au large, Julien.
Oui, ouais. Moi non, mais eux, oui, eux, ce sont Armel Lecléache et Kevin Escoffier, deux navigateurs de renom réunis sur un même bateau pour la Transat Jacques Vabre. Elle débute ce dimanche, départ du Havre, direction Fort-de-France en Martinique.
Alors, on est bien d'accord, hein, Kevin Escoffier, c'est le skipper qui a été sauvé il y a un an sur le Vendée Globe.
Exactement, bravo Omblin. Son bateau s'était littéralement cassé en deux au large de l'Afrique du Sud. Il avait été secouru par Jean Le Cam, vous vous en souvenez. Et bien cette mésaventure, Armel Lecléache l'a lui aussi vécu en 2018 sur la route du Rhum. En clair, on a deux navigateurs dont les deux dernières grosses courses ont tourné au naufrage. Ils ont décidé de s'associer, de rebondir sur un trimaran géant et ils viendront nous le raconter à 6h10. À la une également, on parle beaucoup du risque de pénurie de jouets pour les fêtes, mais est-ce qu'il manquera également des livres sous le sapin de Noël?
Une question qui se pose alors que seront remis aujourd'hui les deux grands prix littéraires, le Goncourt et le Renaudot. Les imprimeries font face à une pénurie mondiale de papier. Aujourd'hui, on parle surtout d'un allongement des délais de livraison et d'une augmentation des prix. Quelles sont les raisons pour expliquer cette forte tension sur le marché du papier et doit-on s'attendre à des répercussions sur les prix des livres? On sera à 5h40 avec Hubert Pédurand. Il est président de l'imprimerie Flock à Mayenne, membre du bureau exécutif du syndicat de la profession.
Mercredi, c'est cinéma dans votre prescription culture. Laurie Choleva nous parlera notamment du film My Son, un remake réussi d'un film français à l'origine. Rendez-vous à 6h moins le quart. Au menu également du thé qui pousse dans la Loire. C'est possible, la preuve dans 20 minutes. Et puis on n'oublie pas votre partition, Omblin.
Un duo qui a marqué nos années 90.
Si la vie demande ça, je peux la comprendre, jamais je ne voudrais la décevoir.
Native avec la chanson Laura Mane, avec la chanteuse Laura Mane de retour avec un nouvel album, l'histoire du duo à 6h20.
Voilà pour une partie du programme et on commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
J'ai bien l'impression que la journée s'annonce encore humide.
Vous avez l'impression.
Vous êtes arrivé sous la pluie, Julien. C'est vrai qu'il pleut là.
J'ai roulé sous la pluie cette nuit, effectivement.
Il pleut en région parisienne, alors ça ne va pas durer. Là, nous avons des averses qui devraient s'arrêter d'ici 7-8 heures du matin. On va suivre ça de près. Alors effectivement, aujourd'hui, la journée sera perturbée et elle va ressembler à celle d'hier avec ce matin, le long de la façade est, beaucoup de pluie. C'est entre l'Alsace et la Côte d'Azur qui pleut le plus. Sur les Alpes d'ailleurs, la limite plus neige s'abaisse. Hein, donc aujourd'hui, on aura des flocons à partir de 1000 mètres dans le Jura, 1200 mètres dans les Alpes. Entre la Corse et la Côte d'Azur, on a des averses orageuses aujourd'hui. Sur les côtes, entre la Gironde et le Pays Basque, là aussi, on va entendre le tonnerre gronder. Ce matin, entre les Ardennes et l'Allier, j'essaye de faire par zone parce qu'on a des zones pluvieuses partout. Donc entre les Ardennes et l'Allier, là aussi, il pleut pas mal. Et là où la journée s'annonce la plus agréable, eh bien, c'est dans le Nord-Ouest, à part quelques petites averses. Les éclaircies sont de retour sur la Bretagne, la Normandie et le centre-Val de Loire. Et dans l'après-midi, le ciel va s'éclaircir sur les Hauts-de-France, le bassin parisien et les Pays de la Loire. Mais il y a toujours un peu de suspense en ce moment. C'est-à-dire qu'on voit une éclaircie, on sort, on oublie le parapluie et bim, une demi-heure plus tard, quelques gouttes. Donc quand même, gardez le parapluie avec vous. Les températures, elles sont en baisse. Couvrez-vous. 2 degrés à Charleville-Mézières, 7 à Paris et 13 à Bastia ce matin.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Un enfant modèle devenu djihadiste, une enfance normale imprégnée par les valeurs occidentales. Voilà comment Salah Abdeslam s'est présenté hier à la barre au procès des attentats du 13 novembre. Parole aux accusés cette semaine, récit dans ce journal. Auf Wiedersehen, au revoir en allemand. Angela Merkel et Emmanuel Macron se rencontrent une dernière fois aujourd'hui à Beaune en Bourgogne. Le couple Macron-Merkel, 4 ans de relation, beaucoup de respect, une solidarité sans faille et pourtant ce n'était pas gagné. Et puis Lille redonne la frite à ses supporters en Ligue des Champions. Le LOSC s'impose à Séville, résultat hier soir 2-1. Les nordistes s'emparent de la deuxième place de leur groupe et retrouvent l'espoir d'accéder aux huitièmes de finale. Leur coach est soulagé, on l'entendra.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le premier jour.
Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui ne parle pas la langue de bois, qui est clair.
J'en ai voulu par moment et maintenant qu'il a réintégré, je suis contente qu'il ne se fasse pas cavalier seul, de toutes les cartes sont rebattues.
Un public urbain et plutôt âgé, resté jusqu'au bout devant un Xavier Bertrand qui, comme ses concurrents, n'a plus qu'un mois pour convaincre.
Alexandre Chauveau.
Avoir un enfant, douloureux parcours du combattant pour un quart des couples français.
Déjà très compliqué à vivre lorsque les causes de cette infertilité sont connues. C'est encore plus difficile à accepter quand elle est inexpliquée. Et pourtant, la proportion des couples concernés par ce mystère est estimée entre 20 et 30%. Des chiffres qui augmentent malheureusement chaque année, Afsane et Saboui.
Lorsque vous essayez d'avoir un enfant et que ça ne marche pas, c'est une spirale. Le stress, les questionnements sans fin. L'épargner au couple, c'est vraiment l'un des enjeux clés du plan fertilité qui a été confié par le ministre de la Santé à Samir Amama, le patron du service de biologie de la reproduction du CHU de Montpellier.
30% des échecs sont dus purement et simplement à l'état d'esprit du couple. Donc si on peut alléger cette anxiété, c'est le début du succès.
L'autre facteur qui joue beaucoup dans ces infertilités dont on ne peut pas médicalement expliquer la cause, c'est l'âge des femmes qui tentent de devenir mères de plus en plus tard. Donc pour Joël Belaïchalard, qui dirige le service de médecine de la reproduction à l'hôpital de Saint-Cloud, l'urgence, c'est de ne pas leur faire perdre de temps.
Trop souvent, on voit encore des femmes arriver qui nous disent « Mon gynéco m'a dit qu'il fallait attendre 2 ans ». C'est faux. La définition de l'infertilité, c'est 1 an de rapport régulier sans obtention de grossesse. Si la femme a plus de 35 ans, consultez dès 6 mois. Et si la femme a plus de 40 ans et qu'elle veut un enfant, c'est immédiatement qu'elle doit être prise en charge.
Le rapport qui doit dessiner le futur plan fertilité est attendu pour la fin de l'année 2021.
Afsane Saboui, spécialiste santé d'Europe 1.
Les problèmes de fertilité peuvent aussi résulter de l'utilisation des combustibles fossiles, de pétrole ou encore de gaz naturel pour la fabrication de certains produits, comme les serviettes hygiéniques. Et elles peuvent jouer un rôle de perturbateur endocrinien. C'est en tout cas la mise en garde formulée par la principale organisation internationale de gynécologues obstétriciens qui appelle à agir lors de la COP26.
Oui, mais hier à Glasgow, l'enjeu portait sur la déforestation. Les dirigeants s'engagent à préserver 13 millions de kilomètres carrés de forêt d'ici 2030, indispensable quand on connaît le rôle des arbres dans l'absorption de gaz à effet de serre. Objectif pas assez ambitieux, estiment les ONG qui rappellent que des engagements avaient déjà été pris. Pourtant, la déforestation a progressé, Zoé Palier.
En tête du classement, le Brésil, plus de 10 000 km² de forêt détruits en 2020. À ce rythme, l'Amazonie pourrait disparaître dans les 50 ans, alerte Carolina Pasquali. Elle est présidente de l'ONG Greenpeace au Brésil.
On a besoin d'un moratoire sur la déforestation, c'est urgent. Mais notre gouvernement n'a aucune envie de le faire. La déforestation a doublé depuis qu'il est en fonction.
La déforestation qui s'accélère aussi en Indonésie et en Malaisie, des milliers d'hectares sacrifiés pour produire et exporter de l'huile de palme. Le commerce international menace aussi les forêts en République démocratique du Congo, explique Sylvain Angeron de l'association Canopée.
Ce pays-là s'apprête à mettre en exploitation industrielle, l'équivalent d'une surface grande comme la France. Ça va ouvrir des routes, va faire venir des bûcherons, va créer des villages et ensuite on va avoir une spirale de déforestation qui va se mettre en place.
Et l'Europe n'est pas non plus épargnée. Ces dernières grandes forêts primaires se trouvent en Roumanie. 38 millions de mètres cubes de bois sont coupés chaque année dans le pays, la moitié de manière illégale.
Zoé Palier.
On termine avec le foot, la Ligue des Champions. Lille, au pied du mur, a enfin arraché une victoire et reste dans la course.
Le LOSC, qui était dernier de son groupe, remonte à la deuxième place après avoir battu le FC Séville en Espagne, 2-1. Une excellente opération pour les nordistes, mais surtout un soulagement non dissimulé après 10 matchs sans victoire dans la compétition européenne pour le coach de Lille, Jocelyn Gourvennec.
Oui, une victoire d'équipe, une victoire collective, où on a montré beaucoup de discipline dans le jeu, parce que c'est très difficile de venir jouer ici, c'est une équipe forte, ça pousse beaucoup. Techniquement, c'est un niveau très, très relevé en face, et il lâche très peu de matchs ici, il n'y a que Chelsea et Dortmund qui sont venus gagner récemment en Champions League, donc on savait que ce serait difficile, ça l'a été jusqu'au bout, mais on est resté discipliné et les joueurs ont vraiment appliqué le plan de jeu à la lettre pour faire cet exploit-là.
Et ce soir en Ligue des Champions, c'est le PSG, premier de son groupe, qui se déplace sur la pelouse de Leipzig. Dernier coup d'envoi 21h sans Lionel Messi, qui souffre d'une gêne aux ischio-jambiers à gauche et d'une douleur au genou.
Décidément, c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup, Alban.
Europe 1, il est 5h10 et c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 804 Fandango la nuit. Ce fils du craquetalon look de star fait preuve d'une louable régularité depuis de nombreux mois, n'ayant jamais terminé plus loin que sixième lors de ses 10 dernières courses, et le style de sa dernière victoire obtenue le 1er octobre sur l'hippodrome de Laval, où il s'est imposé de loin, me permet de vous affirmer qu'il ne sera pas battu cet après-midi pour son retour à Vincennes, une piste qui lui a toujours bien réussi. Notez bien, pour Vincennes, réunion 1 dans la 8e course, le numéro 4, Fandango la nuit.
C'est noté, merci beaucoup Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Très bon réveil à tous sur Europe 1. Vous restez avec nous, à suivre le pressing.
Avec au sommaire, comment venir à bout des ghettos scolaires, un tacos made in ISS et la jauge et qui irrite les loueurs de voitures. À tout de suite.
Et Julien Pierce sur Europe 1.
5h12, l'heure du pressing, votre revue de presse décalée. Et nous sommes comme chaque matin trois autour de cette table. Bonjour Martin Lange.
Bonjour Ambline, bonjour Julien.
Bonjour Martin. On commence avec les unes de vos journaux. Emploi, un coup de pouce pour les jeunes précaires. Titre aujourd'hui en France qui revient sur le contrat d'engagement annoncé hier par Emmanuel Macron. 500 euros par mois pour 400 000 décrocheurs âgés de 16 à 25 ans, à condition qu'ils suivent une formation pour trouver un job. Insuffisant, juge la gauche. Trop dispendieux, fustige la droite. Pourquoi la bourse de Paris atteint des sommets. Voilà ce que l'on peut lire à la une du Figaro. Le CAC 40 a battu hier son record historique de septembre 2000, au plus fort de la bulle Internet. Explication principale, la politique extrêmement volontariste des banques centrales qui injectent massivement de l'argent dans l'économie. Et puis l'équipe titre sur la douce nuit à Séville des joueurs du LOSC. Les footballeurs lillois l'ont emporté 2-1 hier soir sur la pelouse des Andalous, on en parlait à l'instant dans le journal. Voilà pour les unes. Omblin, quel article allez-vous nous raconter ?
Eh bien, c'est la une de Libération. La mixité sociale à l'école, c'est possible. Et ça marche. La preuve la plus éclatante est cette expérimentation qui dure depuis 4 ans à Toulouse. Elle fait partie des plus de 80 projets lancés en 2017 et soutenus par l'Éducation nationale. Alors, pour rappel, en 2013, l'objectif de mixité sociale a été inscrit dans la loi de refondation de l'école. Il a fallu patienter un petit peu pour que cela devienne concret. Toulouse en est donc le plus bel exemple. Alors, de quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Concrètement, sortir les enfants des quartiers pour leur offrir plus de chances de réussite. Deux collèges du Mirail, hein, au creux des barres HLM érigées dans les années 60, ont donc été fermés. Et les élèves sont depuis acheminés par bus dans les collèges du centre-ville et ceux de différentes zones pavillonnaires des communes voisines de Toulouse. Tout a été fait pour que l'expérimentation se passe dans les meilleures conditions possibles, avec de nombreuses mesures d'accompagnement, que ce soit dans les bus ou au sein des collèges et dans chacun des établissements. Ces élèves du Mirail ont été réparés parti pour ne pas être plus de 5 par classe. Eh bien, les premiers chiffres confirment la réussite de cette initiative. Je vous en donne un. Sur les 124 élèves arrivés en 6e il y a donc 4 ans, 94 sont entrés au lycée, dont 9 sont dans l'un des plus prestigieux de la ville, de quoi convaincre les plus sceptiques. D'autres qui sont arrivés au collège, il y a 4 ans. D'autres opérations ont été menées à Paris. L'idée cette fois n'était pas de déplacer les collégiens, mais de modifier la carte scolaire. Vous connaissez la carte scolaire, oui. Et son fonctionnement. Un élève est affecté au collège qui se trouve près de chez lui. Voilà, c'est dans le secteur de son domicile. On élargit donc le secteur pour qu'un collégien dépende de plusieurs établissements avec, du coup, des compositions sociales différentes. Fermer des collèges dits ghetto pour favoriser la mixité sociale et scolaire, ça se passe à Toulouse et c'est dans Libération.
Et c'est une réussite visiblement. Merci beaucoup Omblin. Martin.
Ce matin, je vous parle d'un petit tacos pour l'homme, hein, mais peut-être d'un grand pas pour l'humanité. Ce week-end, l'astronaute américaine Meghan MacArthur a cuisiné ses meilleurs tacos à bord de la Station Spatiale Internationale. Thomas Pesquet y était, hein, il a forcément dû les goûter. Ces tacos 0G pour zéro gravité étaient composés de bœuf importé de la Terre, de tomates réhydratées, elles aussi importées de la Terre, mais surtout de piments qui, eux, n'ont pas été importés. Hein. C'est là la grande nouvelle, ce sont les premiers piments cultivés au sein de l'ISS. Ils sont le fruit, ou plutôt le légume, d'une expérience menée par la NASA et baptisée Plant Habitat 4, une des expériences les plus complexe jamais menée dans l'espace, selon l'agence américaine. Il s'agit d'un plan pour à terme faire pousser des cultures vivrières dans l'espace et fournir ainsi de la nourriture pour les missions au long cours et pourquoi pas à une station spatiale sur la Lune ou sur Mars. À l'heure actuelle, les astronautes se nourrissent principalement de plats lyophilisés ou déshydratés, mais en sachant qu'un aller-retour sur Mars, par exemple, dure 1 an et demi, avoir de la nourriture qui pousse sur place ou dans sa fusée serait un avantage considérable. Alors ces petits piments verts du Chili ont mis 4 mois à pousser, c'est plus que sur la Terre. Un autre des enseignements de l'étude, hein, même si si les chercheurs de la NASA n'ont pas encore d'explication. Une partie de ces piments va d'ailleurs repartir sur Terre pour être analysée, peut-être dans les valises de Thomas Pesquet d'ailleurs, qui doit rentrer prochainement. Mais l'expérience Plant Habitat 4 continue, notamment avec du riz, des radis ou encore du chou. Certains plants de piments ont même fourni des fleurs qui vont permettre de faire germer une autre culture. Un vrai petit potager à 400 km au-dessus de nos têtes. À bord de l'ISS, on mange des tacos cuisinés avec du piment qui a poussé sur place. C'est à retrouver sur le Huffington Post.
Ils étaient bons ?
Alors ça, l'histoire ne le dit pas. On demandera à Thomas Pesquet, vous lui poserez la question.
Le potager de l'ISS. C'est très poétique.
On lui posera la question évidemment à Thomas Pesquet quand il rentrera sur Terre. Je pense qu'on aura d'autres questions à lui poser avant. Mais merci en tout cas, Martin.
D'autres questions que le potager.
Les amis, si je vous dis 1,55€, ça vous évoque quoi ?
C'est trop cher hein, pour la baguette tradition.
Oui, effectivement, quand il est trop.
Le prix du litre de gazole.
Bien vu, c'est le prix moyen d'un litre de diesel ce matin en France. Un tarif qui a augmenté de plus de 20% depuis le début de l'année. Et forcément, ça énerve de nombreux automobilistes, dont l'humoriste Anthony Joubert.
Dernièrement, j'ai fait un plein et j'ai regardé le prix. D'un coup, j'ai tout stoppé, j'ai demandé un devis. Je suis tombé dans les pommes, je suis allé voir mon banquier. Pour faire remonter la jauge, il le faut demander un prêt. Si j'avais du gasoil pour un euro.
Et comme le litre de gasoil n'est pas un euro, certains automobilistes ne reculent devant rien pour grappiller quelques euros. Alors il y a les pragmatiques, ceux qui roulent moins ou se sont mis au covoiturage, merci pour la planète, et les apprentis chimistes qui mettent de l'huile de friture dans le réservoir avec des résultats, comment dire, aléatoires. Ouais. Et en plus, ça ne sent pas la frite au pot d'échappement. Donc à vos risques et périls, après tout, c'est votre véhicule. Mais il y a aussi ceux qui filoutent avec des voitures qui ne leur appartiennent pas. C'est ce que nous apprend ce matin Le Parisien aujourd'hui en France. De plus en plus de clients des agences de location débordent d'imagination pour alléger la facture à la station-service juste avant de restituer le véhicule. Certains font le plein à 50 km avant l'agence, suffisant pour que dans l'intervalle, la jauge ne bouge pas, les aiguilles n'étant généralement pas très sensibles. Le problème, c'est que ces quelques litres manquants se répercutent sur le client suivant qui, lui, s'en aperçoit. Autre technique des fraudeurs, faire le plein à moitié au sans-plomb, puis combler le reste avec du super-éthanol E85, moitié moins cher. Et là, c'est bien plus coûteux pour les loueurs, puisque ce mélange provoque au bout d'un certain temps des problèmes de carburation et de réglage moteur. Alors pour contrer ces bidouilles, la plupart des grandes agences ont mis en place une parade. Désormais, quand vous remettez les clés du véhicule dans les gares, et les aéroports, les agents vous réclament la facture de votre dernier passage à la pompe. Une façon de vérifier la nature du carburant, le nombre de litres achetés et l'endroit où le réservoir a été rempli. C'est efficace, mais immanquablement, cela dégrade la relation de confiance, regrette un loueur. L'autre solution pour les agences, c'est d'accélérer l'électrification de leur parc automobile. D'ici 2030, 70% des voitures de location devront être propres. C'est l'objectif imposé par la loi. Et comme les fraudeurs n'ont pas encore inventé de combine permettant de réduire le coût de chargement d'une batterie électrique, cela semble à moyen terme la meilleure manière de résoudre ce problème.
Ça viendra, ils trouveront toujours une parade. Merci beaucoup Julien. On referme le pressing et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, les principaux titres de ce mercredi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Après 16 ans passés à la tête de l'Allemagne, Angela Merkel poursuit sa tournée d'adieu et passe par la France aujourd'hui. Elle sera reçue en Bourgogne par Emmanuel Macron. Le président remettra tout à l'heure à la chancelière les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur. Parfaitement anticonstitutionnel et totalement disproportionné, Nicolas Sarkozy a critiqué la décision des juges du tribunal de Paris qui l'ont obligé à se présenté au procès des sondages de l'Élysée hier. L'ancien président protégé par son immunité présidentielle a refusé de répondre aux questions. Et puis record battu pour la Bourse de Paris. Elle a clôturé hier à 6 927 points du jamais vu depuis 21 ans. Et dans le même temps, record également à Wall Street où le Dow Jones a fini en hausse de 0,39% à plus de 36 000 points.
Les initiatives en France à 5h20 sur Europe 1, la chronique qui met en lumière celles et ceux qui font bouger les lignes.
Bonjour Julien David.
Bonjour à vous.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le fondateur de la Fabricaté, un assembleur artisanal de thé et d'infusion. Et vous venez de vous lancer un sacré défi, celui de relocaliser une partie de la matière première que vous importez des quatre coins de la planète. En clair, vous voulez faire pousser du thé en France et plus précisément dans la Loire. Expliquez-nous.
Ça part simplement d'un constat où aujourd'hui on a une empreinte carbone catastrophique à importer des thés de différents continents producteurs. Et on s'est dit, c'est peut-être le moment d'agir, d'essayer de produire en interne nos plantes aromatiques et potentiellement nos thés. Alors aujourd'hui, on est juste au balbutiement, c'est-à-dire qu'on est en train de tester 5 écotypes différents pour voir ceux qui seraient adaptés à pouvoir être cultivés en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on espère bien pouvoir planter 2 hectares au printemps prochain, sachant que d'ores et déjà, l'un des 5 cultivars montre de sérieuses prétentions à s'acclimater sous nos latitudes.
Parce que ça pousse le thé en France, c'est techniquement possible ?
C'est techniquement possible. Aujourd'hui, il y a déjà quelques producteurs, 3 ou 4 producteurs, qui sont principalement localisés en Bretagne ou dans le Pays Basque. Mais il faut savoir que la production totale en France métropolitaine de thé n'excède pas 50 kilos. Donc c'est vraiment très très faible par rapport à la consommation totale de thé en France. Mais on arrive à faire des choses assez intéressantes.
Il faut réunir quelles conditions pour que les théiers s'épanouissent sous nos latitudes ?
Déjà, le théier, c'est un camélia, le camélia sinensis. Donc déjà, à la base, les camélias peuvent se plaire sous nos latitudes. Ce qu'ils apprécient moins, c'est des sols gorgés d'eau, donc avec des terrains, ce qu'on appelle chez nous glaiseux, qui retiendraient l'eau. Donc on est obligé de les planter sur des terrains pentus pour empêcher cette accumulation. Et ils aiment particulièrement avoir de l'arrosage par aspersion sur les feuilles. Donc on arrive assez bien à maîtriser ces arrosages individuels en économisant au maximum notre ressource.
Mais ça ne craint pas les épisodes de gel, les théiers ?
Alors certains cultivars vont être un petit peu moins adaptés. Je pense notamment à tous les cultivars qui viennent d'Asie du Sud-Est. Mais on trouve aussi des théiers qui sont plantés dans les contreforts de l'Himalaya, dans les provinces du Yunnan ou encore au Tibet. Donc, et en altitude, en montagne. Donc, non, ça résiste assez bien pour certains d'entre eux à des périodes de gel plus ou moins longues. La grosse crainte, c'est trop d'accumulation d'eau.
Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, le thé made in France, c'est environ une 50aine de kilos par an. C'est donc très modeste. Et vous, votre objectif, je crois, c'est de doubler cette production. C'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. Doubler la production nationale, donc ça paraît beaucoup dit comme ça, mais ça restera 50 kilos, donc c'est assez infime. On fait aujourd'hui 12 tonnes de thé assemblé où on commercialise en thé sous forme de thé d'origine, donc sans rien ajouter à ceci. C'est pour le coup une production très très faible. Alors quand on dit 20% de notre production qu'on souhaite localiser sur notre petit village, je pense surtout à tout ce qui est plantes aromatiques et médicinales qui supportent assez bien des productions locales. Pour en revenir au thé, si on arrive à se fixer comme objectif de pouvoir trouver une méthode de production donc c'est sur des échéances assez longues, on est sur des projets à 7, 8, 10 ans, ce sera un grand pas en avant parce qu'on n'est pas certain dans les prochaines décennies de continuer à pouvoir importer ces thés du fin fond de la Chine par exemple.
Des plantations de thé en France, vous l'avez dit, ça se compte aujourd'hui sur les doigts d'une main. Est-ce qu'on pourra visiter la vôtre ?
J'avais grand plaisir. Elle sera ouverte parce qu'on a un projet d'écotourisme lié à cette plantation, donc pour pouvoir visiter également les plantes aromatiques médicinales, la plantation de théier, notre atelier d'assemblage pour créer tous nos mélanges. Tout ça sera ouvert au grand public dans un but d'écotourisme à partir de l'été prochain.
Merci beaucoup Julien David, patron de la Fabricaté, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir partagé votre belle initiative. On vous souhaite beaucoup de succès et surtout que ça pousse. À très bientôt sur Europe 1.
À très bientôt, au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon réveil à tous. tous. Il est 5h28. Voilà ce qui vous attend dans la prochaine demi-heure.
Le cinéma, le choix ciné de Laurie Choleva, My Son, c'est le remake d'un film français, l'histoire d'un père qui part à la recherche de son fils disparu alors qu'il séjournait dans un camp de vacances. My Son nous plonge dans l'atmosphère sombre et humide des Highlands au cœur de l'Écosse. Rendez-vous dans un quart d'heure.
Et puis il risque de manquer du papier dans les presses des imprimeurs de livres.
Une pénurie mondiale de papier, Julien. Et c'est dans ce contexte en France que seront remis aujourd'hui les prix Goncourt et Renaudot. Les deux romans récompensés ont peu de soucis à se faire. En revanche, l'inquiétude monte au sein des petites maisons d'édition. La faute, une fois de plus, à la crise sanitaire. Et c'est toute la chaîne de production qui est impactée. Nous serons dans 10 minutes avec Hubert Pédurand. Il est président de l'imprimerie Flock à Mayenne.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri et CNAPS.
Anissa, elle a dit une nouvelle journée, comment on va dire, automnale.
C'est ça, pluvieuse, perturbée, agitée. On peut utiliser pas mal d'adjectifs pour cette journée qui va beaucoup ressembler à celle d'hier, avec beaucoup d'averses. L'ambiance est humide aujourd'hui et en plus de ça, parce qu'on va pas s'arrêter là, il y a un petit changement par rapport à hier, c'est la baisse des températures. Alors ce matin, couvrez-vous, hein, on a seulement 3 degrés à Caen et à Lille, 5 à Rennes et Belfort, 7 degrés à Paris, Cherbourg, 8 pour Toulouse, 10 degrés à Montpellier. Faut vraiment aller dans le sud pour dépasser les 10 degrés ce matin, comme par exemple à Bastia avec 13 degrés. Cet après-midi, c'est vraiment frais, ça baisse, 9 à Annecy, 11 degrés pour Clermont-Ferrand, 12 à Paris-La Rochelle, 13 degrés à Bordeaux et Saint-Brieuc, 17 à Montpellier et 20 degrés pour Bonifacio. Alors, c'est sur la façade est hein, que nous avons le plus de pluie aujourd'hui, avec de la neige sur les reliefs de l'Est et des Alpes à partir de 1000 mètres d'altitude. En Corse, eh bien, sur l'ouest de l'île, nous avons des averses orageuses. Sur le Pays Basque aussi, le temps tourne à l'orage aujourd'hui. Et partout ailleurs, eh bien, nous avons toujours un risque d'averse avec un petit peu plus d'éclaircie quand même. On cherche une note positive entre la Bretagne, la région parisienne, la Normandie et le centre-val de Loire cet après-midi.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
De quoi ont peur les autorités chinoises? D'une reprise de l'épidémie ou d'une pénurie alimentaire? Pékin demande à la population de stocker des produits de première nécessité. Les magasins du pays sont pris d'assaut. La Bourse de Paris en pleine euphorie. Le CAC 40 bat son record historique des années 2000 et de la bulle Internet. Une nouvelle étape dans le procès des attentats du 13 novembre avec l'examen de personnalité des 14 accusés présents et notamment Salah Abdeslam, l'unique survivant du commando terroriste. Et puis on connaîtra cet après-midi le lauréat du prix Goncourt, Mohamed Bougard Sarr, jeune écrivain de 31 ans est cité comme le grand favori.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est un simple message posté sur le site officiel du ministère du Commerce chinois. Il demande à la population de stocker les produits de première nécessité. Pourquoi? Personne ne le sait. Est-ce la crainte d'une reprise de l'épidémie alors que des foyers sporadiques ont été signalés? Est-ce la peur d'un nouvel épisode de famine alors que les prix des denrées alimentaires explosent? On ne sait pas non plus. En revanche, il y a une chose que l'on constate à Pékin, c'est la ruée dans les magasins. Reportage de notre correspondant sur place, Sébastien Lebelzik.
Dès l'annonce publiée sur le site internet du ministère du Commerce, les Chinois se sont précipités dans les marchés, comme ici au nord de Pékin. Les autorités appellent en effet les familles à stocker des produits de première nécessité afin de faire face aux besoins quotidiens et aux cas d'urgence. La presse officielle chinoise précise qu'il s'agit de mesures de prudence, car le Covid-19 est de retour en Chine et la moitié des provinces ont enregistré des cas ces derniers jours, avec plusieurs villes et quartiers placés en confinement strict, y compris à Pékin. L'approvisionnement en nourriture est perturbé. Pour cette Pékinoise, il faut faire des provisions pour l'hiver.
Je suis tout de suite allée faire des courses, mais les prix sont déjà très élevés. Avec cette annonce, j'ai peur que ça augmente encore.
Une inflation provoquée aussi par des inondations exceptionnelles cette année en Chine qui ont ravagé les cultures. Les prix des aliments ont considérablement augmenté, 16% de hausse en moyenne en un mois. La Chine, qui est le premier importateur mondial de produits alimentaires, subit aussi de plein fouet la hausse mondiale des prix des matières premières. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Aux États-Unis, c'était prévisible, c'est officiel. Les autorités sanitaires donnent leur feu vert à la vaccination des 5-11 ans. 28 millions d'enfants sont concernés et devraient donc recevoir la première de leurs deux doses du vaccin Pfizer dans les prochains jours. L'épidémie qui rebondit en Europe, les Pays-Bas, où près de 84% de la population est vaccinée, affronte une nouvelle flambée. Conséquence, les restrictions seront de retour dès ce week-end. Port du masque obligatoire dans les magasins et réactivation du pass sanitaire. Le Covid-19 a fait près de 18 500 morts, soit 0,5%. 0,1% de la population néerlandaise.
La France qui, de son côté, s'interroge sur la nécessité d'une troisième dose pour tout le monde.
Pour l'instant, seules les personnes à risque et les plus de 65 ans sont concernées, mais le gouvernement réfléchit à son extension à toute la population. L'idée d'une désactivation du pass sanitaire en cas de refus fait également son chemin au sein de la majorité. La question sera abordée la semaine prochaine lors du Conseil de défense sanitaire.
En tout cas, ces signaux inquiétants n'entament pas le moral des marchés financiers. La Bourse de Paris a battu hier soir son record historique.
Le CAC 40 a terminé à 6 927 points, du jamais vu de mémoire de trader. La Bourse a battu son record de 2000, année marquée par l'envolée puis l'éclatement des valeurs liées à Internet. Oubliez aussi la crise financière de 2008. Paris s'est refait une santé dopée par l'injection massive de liquidités des banques centrales. Le CAC baigne en pleine euphorie, Emmanuel Duteil.
Oui, hein, il s'en est fallu de peu en clôture, mais le symbole est là. Le CAC 40 a retrouvé son niveau d'avant-crise financière. Ça faisait des mois que l'indice se tutoyait ce record qui, à l'époque, avait sonné comme une sorte de malédiction. Les marchés s'étaient ensuite effondrés avec l'explosion de la bulle Internet. Là, les ressorts de la hausse sont différents. Il y a beaucoup d'argent disponible grâce aux mesures de soutien exceptionnelles des banques centrales. C'est aussi la bonne santé des entreprises qui profitent à plein de la reprise boostée par une vaccination de masse dans les pays développés qui explique cet envol. Les valeurs bancaires sont en forte hausse, le luxe avec LVMH et Hermès caracole aussi. Même la bonne vieille industrie, très en pointe aujourd'hui sur la transition énergétique comme Schneider ou Saint-Gobain, connaissent des progressions très fortes. Alors tout le monde se pose la même question, est-on face à une nouvelle bulle ? Les investisseurs sont pour le moment confiants pour l'avenir.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
La crise de la pêche, les négociations se poursuivent entre Français et Britanniques, mais on ne peut pas dire que les choses avancent beaucoup.
Il faudrait déjà que les deux parties parlent le même langage. Hier, en marge de la COP26 sur le climat, le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé que sa position n'avait pas changé sur ce dossier. Manière de dire qu'il ne faut peut-être pas s'attendre à de nouvelles concessions.
5h35 sur Europe 1. On en vient au procès des attentats du 13 novembre où depuis hier, la Cour examine la personnalité des 14 accusés présents.
Et l'ordre alphabétique l'a placé en premier sur la liste des personnes interrogées. Salah Abdeslam est l'unique survivant du commando qui a semé la mort à Saint-Denis et Paris. L'accusé a raconté son parcours de vie, dessinant l'itinéraire d'un homme qui n'est pas né terroriste mais l'est devenu. Et c'est cet aspect qui est le plus intéressant pour maître Gérard Chemla. Il représente les 130 parties civiles à ce procès.
Il s'est présenté d'une façon tout à fait normale et banale puisqu'il a voulu expliquer qu'il avait eu une enfance heureuse, qu'il n'avait pas eu de particularité dans sa vie, qu'il a eu un petit incident de parcours mais que ce n'était pas véritablement un voyou, qu'il aimait travailler. Donc il s'est présenté d'une façon parfaitement normale. Ce qui est intéressant puisque on va partir d'un homme normal qui a un comportement anormal et c'est la juxtaposition entre sa personnalité et les faits qui va nous permettre justement de réfléchir à une démarche qu'on a besoin de comprendre.
Maître Gérard Chemla, avocat de 130 parties civiles au micro de Gladys Laffitte.
C'est l'un des prix littéraires les plus attendus. On connaîtra aujourd'hui le lauréat du Goncourt.
Il sera décerné à 12h45 précise. 4 finalistes et un favori, Mohamed Bougarsar, jeune romancier sénégalais, a emballé la critique avec son roman « La plus secrète mémoire des hommes », portrait d'un écrivain qui pourrait bien créer la surprise. Nicolas Carreau.
4 romans à seulement 31 ans, Mohamed Sarr a trusté cette rentrée littéraire, sélectionné pour la plupart des grands prix, Renaudot, Médicis, Femina entre autres. Depuis septembre, on le voit même favori pour le Goncourt. Il en est le premier surpris, c'est vrai qu'il était passé un peu sous les radars jusqu'à maintenant. Mohamed Sarr naît et grandit au Sénégal dans une fratrie de 7 garçons. Père médecin, il débarque en France pour ses études où il intègre la prestigieuse école des hautes études en sciences sociales à Paris pour un doctorat de lettres. Il vit aujourd'hui à Beauvais. La plus secrète mémoire des hommes, son roman imagine l'enquête du narrateur à la recherche d'un écrivain mystérieux, Tessé Elliman, auteur d'un livre mythique, Le labyrinthe de l'inhumain, un prétexte pour interroger les grandes tragédies contemporaines, la question de l'exil et la littérature, entre autres. C'est ce qu'on appelle un roman monde. Mohamed Sarr avait promis à son éditeur qu'il courrait un marathon s'il était sur au moins 3 listes de prix. Sa carrière, en tout cas, sera sans doute une course de fond.
Nicolas Carreau, le lauréat du concours, sera dévoilé aujourd'hui à 12h40. 45. Le football, Lille se relance dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après son exploit hier soir à Séville. Le LOSC s'est imposé 2-1. La Juventus Turin et le Bayern sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Et puis ce soir, le PSG affronte le RB Leipzig à 21h. Enfin, le Masters 1000 de Paris de tennis, qualification pour le deuxième tour de Gaël Monfils, qui retrouvera un autre Français, Adrian Manarino, pour une place en huitième. Ça passe aussi pour le numéro 1 mondial, Novak Djokovic.
Jeu 7 et match, c'était le journal de Christophe Lamar. Merci Christophe. On passe aux courses avec vous Thierry Léger et vos pronostics du quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction Vincennes pour ce premier quintet de ce meeting d'hiver. Et parmi les 16 chevaux âgés de 7 à 10 ans qui en découdront sur la distance de 2700 mètres, priorité aux plus jeunes avec les numéros 11, Évariste Dubourg, titulaire de 6 victoires lors de ses 8 dernières sorties et aux limites actuelles encore inconnues. 1. Hélène, une jument longtemps ménagée et qui vient de se balader dans un quintet le 13 octobre sur l'hippodrome d'Anguin. 5. Idjo Jocelyn, capable d'adopter toutes les tactiques, quel que soit le parcours proposé. Et 6. Élude Dompierre, pour lequel son entraîneur David Aon n'hésite pas à effectuer un long déplacement depuis le centre-est. Ensuite, je vous recommande les numéros 12, Dreamer de Chenu, 16, Diane Winner, 3, 2 Ex Machina et 2, Elliott Dambry. Ces 4-là ont tout à fait les moyens de s'immiscer à une cote spéculative à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 11, As, 5, 6, 12, 16, 3 et 2. Et
si vous n'avez pas eu le temps de noter, pas de panique, les pronostics sont à retrouver sur europe1.fr. Merci Thierry Léger. Et à demain, 5h39, on revient dans un instant sur cette forte tension qui pèse en ce moment sur le marché du papier. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, il est 5h40 et c'est aujourd'hui que seront remis les deux grands prix littéraires, le Goncourt et le Renaudot. Dans un contexte inédit, une menace de pénurie de papier plane au-dessus des imprimeurs et des maisons d'édition. Nous sommes Omblin avec Hubert Pédurant, le président de l'imprimerie Flock à Mayenne et membre du bureau exécutif de l'UNIC, l'Union nationale des industries de l'impression et de la communication.
Bonjour Hubert Pédurant.
Oui, bonjour.
On se doute bien qu'il y aura assez de Goncourt et de Renaudot sous le sapin de Noël. Ce sont les lignes de production de petites maisons d'édition qui craignent de manquer. Qu'est-ce que vous constatez dans votre imprimerie ?
On constate qu'il y a une véritable crise papetière qui est à l'œuvre, avec pour conséquence immédiate des augmentations tarifaires. Doublé d'une pénurie significative hein, sur les matières et avec des retards importants. Pour les prix littéraires, il n'y a aucun risque, mais absolument aucun risque. Nous avons déjà imprimé d'ailleurs le Féminin Médicis et tout s'est parfaitement bien passé. Les grandes maisons se sont adaptées avec les moyens qui sont les leurs pour mettre en stock de manière suffisante des papiers en quantité pour répondre à la reprise qui est forte sur la lecture et chez les libraires. Les éditeurs de moins grande surface financière sont un peu plus en difficulté. Néanmoins, nous, en tant qu'imprimeurs, et je parle aussi au nom de mes confrères, nous avons essayé d'anticiper au mieux les pénuries. Maintenant, le prix des matières premières étant ce qu'il est, je dirais que tous les éditeurs, les gros, petits et moyens, on est tous à peu près à la même enseigne avec des augmentations de tarifaires entre 15 et 30%. Donc la difficulté, elle est là. C'est, nous avons réussi à mettre en place du papier. Maintenant, arriverons-nous à le vendre ?
Alors, on va essayer de l'expliquer. Si on remonte la filière, c'est quoi ? D'abord, il y a un manque de papier, de matières premières. Aussi, avec la crise sanitaire, moins d'arbres ont été abattus. C'est ça déjà, d'abord, au départ ?
Moins d'arbres ont été abattus, oui. Alors, on n'abat pas que des arbres pour faire du papier. Mmh. Hein. Nous sommes une industrie aussi qui recycle énormément. Oui. Donc ça, il ne faut pas avoir en tête que l'édition et que l'imprimeur sont des destructeurs de forêt. Ça fait partie des choses sur lesquelles on doit absolument lutter. Et les bois d'élevage qui sont faits, notamment au Brésil, sur les eucalyptus, sont des bois qui sont absolument dédiés à notre industrie.
Alors toute la chaîne de production est impactée. Là, on parlait des matières premières. Il y a aussi, bien sûr, le coût de l'énergie. Le transport avec ces bateaux qui n'arrivent pas. Les coûts de production flambent, vous l'avez bien dit. Doit-on s'attendre à un impact sur le prix des livres ?
Alors, il n'y a pas que le prix de l'énergie, hein, le prix du kilowattheure ou du million de kilowattheure a énormément augmenté, mais il ne faut pas oublier également le droit d'émission au CO2. Hein. Vous savez que les industriels sont taxés sur ce qu'ils émettent dans l'atmosphère. Les produits chimiques ont également énormément augmenté, tout ce qui est emballage, vous citiez les transports. Donc quand vous additionnez cet ensemble-là, on est sous forte pression. C'est le moins qu'on puisse dire. L'impact sur le prix du livre final, écoutez, ça je pense qu'il faut interroger les éditeurs qui maîtrisent leur prix de vente. Nous sommes des prestataires de services, nous les imprimeurs, on met à disposition une capacité industrielle pour rendre possible la manufacture de livres en France. Nous livrons les distributeurs qui appartiennent aux grands groupes d'édition en France. Après, les prix de vente, bien souvent, sont fixés en fonction de collections, en fonction de prix de marché. Y aura-t-il une augmentation des prix d'ici Noël? J'en doute, parce que beaucoup de plans d'affaires sont déjà établis depuis fort longtemps et on ne change pas une industrie comme ça en claquant des doigts. Donc chacun doit, je dirais, composer avec ces augmentations tarifaires. La question de fond, sommes-nous sur un cycle qui va se modifier dans le premier semestre 2022. Moi, ce que je peux mesurer en tant qu'imprimeur, c'est que certains papiers aujourd'hui coûtent encore moins cher de 40% par rapport à 1995. Il ne faut pas oublier que notre industrie, nous en tant qu'imprimeur, on s'inscrit sur un temps long. Gardons la raison et évitons de nous emballer sur de fausses augmentations qui pourraient être à ce moment-là des augmentations convenues, entre guillemets.
Merci beaucoup Hubert Pédurand d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 et nous avoir consacré ces quelques minutes. Vous êtes le président de l'imprimerie Flock à Mayenne et membre du bureau exécutif de l'UNIC, l'Union Nationale des Industries de l'Impression et de la Communication. Merci.
Merci, belle journée à vous. Au revoir.
Bon, si jamais les livres venaient à manquer pour Noël, on peut toujours aller davantage au cinéma. C'est la prescription culture du mercredi avec Laurie Choleva.
Bonjour Laurie.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Laurie, cette semaine, vous nous conseillez un remake d'un film français.
Oui, un film européen, My Son, de Christian Carion, le réalisateur d'Une hirondelle a fait le printemps ou encore de Joyeux Noël, qui adapte lui-même son propre film. C'était Mon garçon, en version française. Alors c'est l'histoire d'un père absent qui part à la recherche de son fils qui s'est fait enlever dans son camp de vacances. C'est donc le remake anglophone et on retrouve pour jouer le personnage qui est interprété par Guillaume Canet dans la version originale, le comédien écossais James McAvoy et face à lui l'actrice anglaise Claire Foy que tout le monde connaît pour son interprétation magistrale de la reine Elisabeth dans la série The Crown.
Vous êtes allé en Libye, en Irak? Est-ce que vous avez des raisons de croire que c'est à cause de mon métier ce qui est arrivé à mon fils?
Nous envisageons toutes les hypothèses, y compris l'enlèvement.
Que tu as pensé une seconde au genre de père que tu as été pour ton fils?
Je suis un mauvais père, je sais que je suis pas présent. Je crois que j'ai trouvé une piste.
C'est vraiment un remake réussi, haletant. On retrouve en fait tout ce qui avait fait le succès de Mon garçon, à savoir une atmosphère particulière, sans doute due à la façon de tourner de Christian Carion, le réalisateur. Comme avec Guillaume Canet 3 ans plus tôt, en fait, Christian n'a envoyé ni script ni dialogue à James McAvoy. Donc c'est vraiment un tournage particulier, presque improvisé. Écoutez Christian Carion et James McAvoy revenir sur cette expérience.
Pour moi, McAvoy est un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Et donc j'étais curieux de voir comment il allait se comporter dans un film où il n'a rien. Il s'est abandonné au jeu et moi je trouve très fort ce qu'il nous a donné.
Il essaye de ne pas me diriger. Il n'avait pas envie de me donner de directives. Il veut juste que les choses se produisent grâce à la construction de la mise en scène, pour que je réagisse comme il l'imaginait. Ou alors, je lui donne quelque chose auquel il ne s'attendait pas. La plupart du temps, je n'avais pas l'impression de jouer. Mais quelquefois, si. La violence et le combat, ça m'a fait bizarre. Comment peut-on improviser ces choses-là sans faire de mal aux gens? Donc, dans ces moments-là, je ne me sentais jamais vraiment libre. Mais pour le reste du film, je n'avais pas l'impression de jouer. Juste l'impression d'être moi.
Et puis Laurie, si on chantait à présent?
Oui, alors non, je vais vous éviter cela. Il est trop tôt ce matin. En revanche, je vais vous parler de la comédie Si on chantait avec grand plaisir. C'est la comédie feel good de la semaine avec Artus, Alice Paul ou encore Clovis Cornillac. L'histoire d'ouvriers qui doivent se reconvertir après la fermeture de leur usine et qui décident de créer une société de livraison de chansons. Alors on peut faire livrer une chanson pour faire une déclaration d'amour, mais on peut aussi régler ses comptes.
J'ai une livraison pour Marc.
Ouais, c'est moi.
C'est un message de Mélanie. Marc. Je me casse. Adieu, Ducon.
Partir un jour, sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter.
Alors c'est vraiment un film très agréable à regarder, léger, humain, très drôle sur la camaraderie, la force du collectif, le quotidien aussi de ces ouvriers qui doivent retrouver du travail. Et puis cerise sur le gâteau, bah, vous l'avez entendu là dans l'extrême, et une bande originale faite de tous les grands standards de la chanson française qu'on aime beaucoup.
Oui, on aime beaucoup les To Be Free chantés par Clovis Cornillac. Si on chantait et My Son, donc deux films à voir cette semaine au cinéma. Merci beaucoup Laurie Choleva.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
5h49, l'actu To Be Free en 2-3 brèves avec Alban Le Prince.
Une enfance normale imprégnée par les valeurs occidentales. Voilà comment Salah Abdeslam a décrit son parcours hier devant la cour d'assises spéciale de Paris au procès des attentats du 13 novembre. La parole est aux 14 accusés cette semaine. Nicolas Sarkozy refuse de répondre au procès des sondages de l'Élysée. L'ancien président, couvert par son immunité, critique la convocation des juges qu'il estime parfaitement anticonstitutionnel et totalement disproportionné. L'ex-otage française Sophie Pétronin, libérée en octobre 2020, de retour au Mali depuis le mois de mars. Les autorités maliennes avaient pourtant refusé de lui délivrer un visa. Un avis de recherche est lancé pour la retrouver. Et puis du foot avec la belle victoire de Lille hier sur Séville, 2-1 en Ligue des Champions. Ce soir, c'est le PSG, premier de son groupe, qui se déplace sur la pelouse de Leipzig à 21h, mais sans Lionel Messi.
Europe Matin.
On ouvre maintenant vos quotidiens locaux. C'est en France, un article de la presse régionale raconté par celles et ceux qui l'ont écrit.
Bonjour Ludovic Ibart.
Bonjour.
Merci infiniment de nous accorder quelques minutes. Vous êtes journaliste à la Dordogne Libre et vous publiez ce matin un article sur une expérimentation qui ne passe pas inaperçue dans le centre-ville de Périgueux.
C'est le moins qu'on puisse dire, tout à fait.
Grandeur nature d'un bus à haut niveau de service. Déjà, c'est quoi la différence exactement avec un bus classique ?
Eh ben, vous avez un bus classique qui circule en ville, mais plusieurs voies lui sont réservées. C'est-à-dire que désormais dans Périgueux, dans les prochains mois, les prochaines années, la place du bus sera renforcée un peu partout sur Périgueux et l'agglo. Donc le but est de faire cohabiter au mieux automobilistes, cyclistes et transports en commun, ce qui n'est pas évident pour une petite ville comme la nôtre.
Alors on comprend à la lecture de votre reportage que cette expérimentation, qui va durer je crois jusqu'au 19 novembre,
c'est ça,
fait des grincheux à Périgueux.
Ben, un petit peu, parce que comme il n'y a pas de contournement à Périgueux, donc on est obligé de passer la plupart du temps par le centre-ville pour rejoindre sa destination. Et la mise en place de ce nouveau système de circulation, ça ne fait pas des heureux, parce que ça met en place un espace pour les voitures et un autre pour le bus qu'il faut partager. Et là, ce n'est pas évident, parce que certains essaient de forcer le passage des deux côtés. Et effectivement, ce matin, c'était un petit peu tendu entre ceux qui découvraient effectivement ce nouveau système de circulation et les touristes aussi de passage qui étaient un peu paumés. Donc, ça promet pour les prochains jours.
La circulation à Périgueux, vous l'avez dit, est déjà relativement compliqué en l'état. C'est dû à quoi,
oui,
au-delà du manque de contournement? C'est dû à la largeur des rues?
Oui, le centre-ville est assez étroit. Les bus, en plus, sont assez grands à Périgueux. Donc, sans parler non plus des véhicules de livraison qui sillonnent la ville. Donc, effectivement, circuler à Périgueux, c'est très compliqué. Il suffit qu'il y ait un petit chantier pour tout chambouler dans la ville. Effectivement, c'est très, très compliqué parfois de circuler en ville.
Alors là, il y a quelques désagréments, mais le vrai test débutera lundi avec la fin des vacances.
Eh oui, parce que là, tout le monde va revenir un petit peu au boulot et à l'école. Et certains usagers que j'ai rencontrés ce matin m'ont dit qu'effectivement, sans rigoler, ils allaient dire que ça allait être un sacré bazar, pour ne pas dire plus, lundi dans les rues de Périgueux pour circuler, effectivement.
Et si l'étude est concluante, est-ce que l'agglomération va pérenniser cette voie de circulation dédiée ?
Exactement. Des travaux vont être mis en place, effectivement, pour pérenniser ce système. Alors, pour le moment, c'est en étude. L'étude sera rendue publique au début de l'année prochaine, vraisemblablement, pour voir un petit peu quels vont être les aménagements définitifs qui seront apportés sur cette portion du centre-ville.
Au-delà des automobilistes qui, on le comprend, ne sont pas forcément favorables à voir l'une de leurs voies réservée à un bus, ils en pensent quoi, les périgourdins, de cette future ligne ?
Ah ben, c'est assez mitigé, là, les personnes que j'ai vues. Il y a des cyclistes qui sont plutôt contents parce qu'ils vont pouvoir utiliser la voie des bus. Et par contre, bah, les périgourdins se disent que bah, les bus, ils sont pas souvent très pleins en ville. Ils sont pleins le matin et le soir. Et en journée, bah, il n'y a pas grand monde dedans. Donc, ils disent à quoi ça sert de faire autant d'efforts pour finalement un bus qui n'est pas très plein en journée. Voilà, la plupart du temps c'est ça, les périgourdins sont très très voitures, c'est très difficile de leur faire changer d'avis.
Un sentiment mitigé donc.
Ah, c'est très mitigé, oui.
Merci beaucoup Ludovic Ibart d'avoir été en ligne avec nous ce matin, de nous avoir fait découvrir l'un des articles à lire aujourd'hui, donc dans la Dordogne libre. Très bonne journée et à bientôt.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon mercredi à tous sur Europe 1, il est 5h57, dans un instant la météo, le journal et un duo.
Un duo de navigateurs chevronnés qui s'apprêtent à prendre le large. Armel Lecléache et Kevin Escoffier seront dimanche sur la ligne de départ de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre. Sur un même bateau, le Banque Populaire 11, un énorme trimaran qui vole sur l'eau. C'est un peu la course de la revanche pour ces deux skippers au palmarès impressionnant. On se souvient il y a un an du sauvetage in extremis de Kevin Escoffier dont le bateau s'est brisé sur le Vendée Globe. Quant à Armel Lecléache, il a connu la même mésaventure sur la route du Rhum en 2018. Alors comment aborde-t-il ce retour en haute mer ? Eh bien, on leur posera la question dans 10 minutes. On écoutera ensuite, Amblin, votre indispensable partition.
Elle faisait partie d'un duo, elle aussi native dans les années 90. Et puis, elle a chanté pour Disney.
Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour ? Les pleurs des chats sauvages au petit jour ? Entends-tu chanter les esprits de la montagne ?
Pocahontas, bien évidemment. Je laissais tout. Laura Main continue sa carrière sous le nom de Native. Elle s'apprête à sortir un album. On y revient dans 20 minutes.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri-ECNAPS.
Bon, Anissa Dadi, elle n'est pas très Disney la météo ce matin. Hein.
C'est... Ah ben non, enfin, quoi qu'il y a du vent, il y a de la pluie. Mais enfin, c'est vrai que Pocahontas, elle nous ferait du bien là. Parce qu'en plus, les températures sont en baisse. Alors déjà que l'humidité accentue la sensation de froid, alors aujourd'hui, il va encore faire plus froid. On a 1 degré à Font-Romeu ce matin, 3 à Rouen, 7 degrés à Paris et Besançon, 11 à Perpignan et 15 à Calvi. Cet après-midi, 9 degrés seulement à Guéret, 11 à Montluçon et Strasbourg, 12 à Paris, ça baisse par rapport à hier. 14 degrés à Lyon, 17 à Nice, 21 à Bastia et ça ne s'arrête pas là puisque jeudi et vendredi seront les journées les plus fraîches de la semaine. Alors dans le ciel, c'est encore une journée très perturbée. Ce matin, entre les Pyrénées et les Alpes, nous avons des averses soutenues. Dans le Grand Est aussi, le temps est très pluvieux toute la journée. Cet après-midi, c'est dans le sud que le temps sera le plus agité avec en Corse, sur le Pays Basque et la Côte d'Azur, des orages et puis au nord de la Loire. Je finis par le plus positif de cette météo, un temps un petit peu plus calme entre la Bretagne et la région parisienne avec des éclaircies.
Merci beaucoup Anissa Dadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous, c'est votre journal. Il est 6h. Un an après l'élection de Joe Biden aux États-Unis, quel bilan ? À bientôt 79 ans, le président américain est sur tous les fronts, économie, santé, climat. Pourtant, sa popularité est en chute libre. Éclairage de notre correspondant dès le début de ce journal. Un plan national pour lutter contre l'infertilité. Voilà sur quoi planche depuis près d'un mois un groupe de travail dédié. Ses conclusions sont attendues d'ici à la fin de l'année, alors qu'en France, un couple sur quatre rencontre des difficultés à faire un enfant. Et puis justement, quel avenir pour l'homme avec un grand H ? C'est la question que pose entre autres l'exposition aux frontières de l'humain au musée de l'homme. Une bonne idée de sortie si vous êtes à Paris pendant les vacances.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Élise Danjon. Bonjour Élise.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
C'était il y a un an, jour pour jour, l'élection de Joe Biden à la Maison Blanche.
L'heure de dresser un premier bilan, le président démocrate peine à concrétiser les espoirs placés en lui quand l'ombre de Donald Trump plane toujours sur la politique américaine. Alexis Guilleux, son mandat avait pourtant bien commencé.
Oui, Donald Trump le disait, endormi, trop vieux pour occuper la Maison-Blanche, mais à bientôt 79 ans et malgré les impasses, Joe Biden reste hyperactif. Économie, santé, climat, il est sur tous les fronts au point d'invisibiliser sa vice-présidente Kamala Harris, pourtant populaire dans les rangs démocrates. Après un premier semestre symbolisé par la réussite de la campagne vaccinale, la réalité a rattrapé Joe Biden cet été. Reprise économique fragilisée par le variant Delta, fin du conflit afghan marqué par le retour des talibans au pouvoir. À cause des divisions au sein de sa très courte majorité au Congrès, le président a également dû revoir ses ambitions à la baisse et ses deux grands projets de loi sur les infrastructures et les dépenses sociales sont toujours bloqués par deux sénateurs démocrates modérés. La popularité du président est désormais en chute libre, 42% d'opinion favorable en octobre, c'est 15 points de moins qu'en février, alors que dans le même temps, Donald Trump a resserré son emprise sur le parti républicain. Les thèses complotistes gagnent du terrain, seuls 22% des électeurs conservateurs pensent que Joe Biden a été élu légitimement l'an dernier.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 à Washington.
Et à 300 km de là, à New York, la Big Apple, elle, a un nouveau maire.
Eric Adams, c'est son nom, ancien policier et syndicaliste antiraciste a remporté le scrutin haut la main. Selon les premiers résultats, il a raflé 67% des suffrages exprimés. Eric Adams, qui est donc le second maire afro-américain de la grosse pomme.
Moins de méthane, plus d'arbres.
Après un premier accord pour enrayer la déforestation, les dirigeants de la planète en ont conclu un second hier à la COP26 de Glasgow. Une centaine d'entre eux s'engagent à réduire leurs émissions de méthane d'au moins 30% d'ici à 2030. Ces pays représentent plus de 40% des émissions mondiale de ce puissant gaz à effet de serre. Parmi les grands absents, la Chine, la Russie et l'Inde qui figurent pourtant parmi les plus gros pollueurs.
Le climat, la pollution, mais aussi le stress ont des conséquences très concrètes sur nos vies quotidiennes et notamment sur notre fertilité.
Aujourd'hui en France, un couple sur quatre a des difficultés à faire un enfant, un chiffre en constante augmentation depuis 20 ans et depuis près d'un mois, un groupe de travail planche sur le sujet. Il doit aboutir sur un plan national, Afsane Sabouy.
Lorsque vous essayez d'avoir un enfant et que ça ne marche pas, c'est une spirale. Le stress, les questionnements sans fin. L'épargner au couple, c'est vraiment l'un des enjeux clés du plan fertilité qui a été confié par le ministre de la Santé à Samir Amama, le patron du service de biologie de la reproduction du CHU de Montpellier.
30% des échecs sont dus purement et simplement à l'état d'esprit du couple. Donc si on peut alléger cette anxiété, c'est le début du succès.
L'autre facteur qui joue beaucoup dans ces infertilités dont on ne peut pas médicalement expliquer la cause, c'est l'âge des femmes qui tentent de devenir mères de plus en plus tard. Donc pour Joël Belaïchalard, qui dirige le service de médecine de la reproduction à l'hôpital de Saint-Cloud, l'urgence, c'est de ne pas leur faire perdre de temps.
Trop souvent, on voit encore des femmes arriver qui nous disent « Mon gynéco m'a dit qu'il fallait attendre 2 ans ». C'est faux. La définition de l'infertilité, c'est 1 an de rapport régulier sans obtention de grossesse. Si la femme a plus de 35 ans, consultez dès 6 mois. Et si la femme a plus de 40 ans et qu'elle veut un enfant, c'est immédiatement qu'elle doit être prise en charge.
Le rapport qui doit dessiner le futur plan fertilité est attendu pour la fin de l'année 2021.
Afsane Sabouy, spécialiste santé d'Europe 1.
C'est une première en France. La SNCF a perdu l'exploitation d'une ligne TER en région PACA.
L'appel d'offres du Conseil régional pour l'axe qui relie Marseille, Toulon et Nice a été remporté par le groupe Transdev qui commencera à exploiter les lignes dès l'été prochain. Un coup de tonnerre pour la SNCF. Reportage sur place, Stéphane Burgat.
C'est une première au goût amer pour Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs.
Depuis des années, nous faisons tous nos meilleurs efforts pour pouvoir redresser la régularité. Mais ça est un choc pour l'entreprise puisque c'est effectivement la première fois que nous perdons à cet appel d'offres.
Comment en est-on arrivé là? Le président de région, Renaud Muselier, refuse d'accabler la SNCF mais reconnaît les échecs du passé.
C'est sûr que si on est rentré dans cet appel à concurrence, c'est que ça marchait pas, hein. Enfin ça roulait pas. Quoi.
Les usagers en colère qui attendent le train pendant des heures et qui n'arrivent pas et qu'on ne prévient pas. J'entends tout ça, donc j'essaye de faire un équilibre logique.
À l'été 2025, la rotation va doubler avec 16 rames neuves, plus de personnel et la promesse d'une meilleure ponctualité. L'ouverture à la concurrence tire le service vers le haut, selon le président du groupe Transdev, Thierry Mallet.
On voit très bien dans les pays dans lesquels l'ouverture à la concurrence remonte à déjà une vingtaine d'années, que cette ouverture à la concurrence, elle ne bénéficie pas simplement aux nouveaux opérateurs, mais aussi aux opérateurs historiques qui aussi se modernisent.
Et pour le personnel transféré de la SNCF, Transdev demandera plus de polyvalence contre une meilleure rémunération. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Allez, une idée de sortie à présent à 6h05 sur Europe 1. Si vous êtes de passage à Paris en ces vacances scolaires, l'exposition aux frontières de l'humain au Musée de l'Homme.
Une exposition sur notre place au sein du règne animal qui s'interroge aussi sur l'avenir de l'homme avec un grand H, visite guidée signée Laure d'Autriche.
L'homme repousse constamment ses limites et c'est pour cette raison que Homo sapiens s'est imposé à la surface de la Terre. Les points communs, différences entre l'homme et l'animal sont racontés et le sujet passionne le public.
On a appris pas mal de choses sur la capacité des animaux et les facultés de l'homme et de l'animal, donc c'est intéressant.
Si entre les humains et les animaux, il y avait une frontière ou non.
Lorsque l'humain semble avoir atteint ses limites physiques, il s'est inventé pour progresser encore et encore. Exemple dans le sport avec Dick Fosbury en 68, qui saute plus haut que ses adversaires et qui a révolutionné la discipline. À quoi ressemblera l'homme du futur? Tout est possible, explique King Grege, la commissaire de l'exposition.
On ne sait pas si l'homme du futur sera quelqu'un d'hybridé avec des machines. Nous le sommes déjà partiellement, hein, puisque le téléphone portable est souvent un prolongement de notre cerveau et de notre main. Après, nous questionnons aussi l'homme du futur à travers les manipulations qu'on peut faire en génétique.
Plus on progresse dans l'exposition, plus les humains semblent s'affranchir de leurs limites jusqu'au transhumanisme et ses promesses d'immortalité.
Voilà, une belle visite guidée. Du
ça a l'air passionnant.
Lord d'Autriche, absolument.
C'était Élise Dangean pour le journal. Merci beaucoup, Élise.
Il est 6h06, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et on commence par l'exploit de Lille hier soir en Ligue des Champions.
Oui, les Lillois se sont imposés à Séville 2-1. Première victoire pour le LOSC dans l'arène des compétitions européennes depuis 2012. Et quelle victoire chez le favori du groupe, 3 de la Liga espagnole. Pourtant, tout ne fut pas simple. Ouverture du score précoce des Espagnols, pénalty refusé à Jonathan David. Mais il faut croire que les Lillois ont enfin retrouvé le mental qui leur a permis de devenir champion de France au printemps dernier. David, encore lui, a égalisé avant la mi-temps. Et le coup de grâce est venu d'un formidable Jonathan Ikoné, élu homme du match. On l'écoute.
On a montré qu'on avait faim, en fait. On a tout donné, on n'a rien lâché malgré qu'il menait au score. Et on a su revenir et marquer deuxième. Franchement, c'est exceptionnel. On attendait cette victoire avec impatience. Et maintenant, on a su le faire et j'espère que ça ne sera pas la dernière.
Ce matin, les Lillois sont deuxièmes de leur groupe, bien placés pour envisager une qualification en huitième de finale. Dans les autres matchs de la soirée, Manchester United arrache le match nul à Bergame grâce à un but de l'inévitable Ronaldo, 2-2. Le Barça se relance en allant gagner à Kiev, 1-0. Et le Bayern et la Juventus sont déjà qualifiés pour les huitièmes.
La Ligue des Champions qui continue ce soir.
Oui, avec le PSG qui se déplace à Leipzig, les Parisiens sans Lionel Messi, mais avec Kylian Mbappé, espèrent se rapprocher de la qualification eux aussi. À suivre également ce soir, Liverpool, Atlético de Madrid ou encore Dortmund. Ajax Amsterdam.
Un mot de tennis, Martin, et l'Open de Paris-Bercy.
Oui, avec la belle entrée en matière de Gaël Monfils. Vainqueur du Serbe, Kecmanovic hier est acclamé par le public de Bercy. Hein. Ça ne passe pas en revanche pour Pierre-Hugues Herbert et Richard Gasquet. Aujourd'hui, Monfils retrouvera un autre Français, Adrian Manarino, et Hugo Gaston se frontera à l'Espagnol Carreño Busta. A noter aussi l'entrée en lice du tenant du titre, Daniil Medvedev, tombeur de Djokovic à l'US Open. Le Russe garde dans un coin de la tête la place de numéro 1 mondial.
Si je vois une petite opportunité, peut-être ça va rentrer dans mon cerveau un peu, mais c'est plutôt l'objectif, j'ai envie de dire, pour après, où il faut encore mieux jouer sur les grands chelems. Et c'est comme ça que tu peux devenir numéro 1 mondial, je pense.
Enfin, chez les femmes, à la Billie Jean King Cup, les Bleus sont condamnés à l'exploit aujourd'hui face à la Russie.
Merci, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous. Dans un instant, je reçois non pas un, mais deux navigateurs, et pas n'importe lesquels. Armel Leclache et Kevin Escoffier du Haut Choc, qui s'apprêtent à prendre le large pour la Transat Jacques Vabre. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h11, bon début de matinée sur Europe 1. La 15e édition de la Transat Jacques Vabre débutera ce dimanche et reliera le Havre à Fort-de-France en Martinique. Elle marque le retour de la catégorie ultime et parmi ces grands trimarans qui prendront le départ, il y a le Banque Populaire 11 emmené par les skippers Armel Lecléache et Kevin Escoffier.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en studio ce matin, à 4 jours maintenant du grand départ. Ça y est, vous commencez à avoir des fourmis dans les jambes, Armel Lecléache?
Oui, la pression monte doucement. Effectivement, on commence à avoir un peu plus de précision sur la météo du départ. Et puis l'ambiance au Havre monte aussi. Donc non, on a hâte de partir avec Kevin dimanche à 13h27.
Vous allez avoir quelle météo, Kevin?
Alors justement, on commence à regarder ça. Pour le moment, c'est une météo plutôt favorable. On va dire que les départs au mois de novembre peuvent souvent être très, très sport. Et là, nous, avec un bateau récent, le type de météo qui pour l'instant a l'air de se préciser nous convient parfaitement.
Vous vous sentez fin prêt, Kevin Escoffier, pour repartir au large un an seulement après votre naufrage sur le Vendée Globe?
On aimerait toujours avoir plus de temps, surtout quand on a un bateau qui a été mis à l'eau fin avril. On aimerait toujours avoir plus de temps pour découvrir, optimiser le bateau. Mais je pense qu'on a vraiment utilisé le temps au maximum de ce qu'on pouvait faire. On a beaucoup navigué. Donc oui, on est. Je me sens prêt à retourner naviguer à Carmel et très content d'y aller.
C'est un peu quand même la particularité de votre duo. Vous avez chacun, lors de vos deux dernières grosses courses, perdu votre bateau. C'était sur la route du Rhum 2018 pour vous, Armel Lecléache. Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire ?
Non, ça rajoute pas une pression supplémentaire parce que moi j'ai fait la part des choses, j'ai fermé la parenthèse de ce qui m'est arrivé il y a 3 ans. Depuis j'ai renavigué, j'ai fait la Transat Jacques Vabre il y a 2 ans en IMOCA avec Banque Populaire, j'étais accompagné de Clarisse Kremer et puis j'ai refait du Figaro aussi. Donc non, l'ultime c'est un nouveau chapitre, c'est un nouveau bateau qu'on a construit pendant 2 ans et c'est la première grande course à laquelle on va prendre part, on est très heureux. Moi j'aurais bien sûr à cœur de retrouver la route du Rhum dans 1 an, mais cette Jacques Vabre, elle arrive à point nommé parce qu'on a envie de faire de belles courses avec ces super bateaux. On sera 5 ultimes sur la ligne de départ et 5 duos très compétitifs. Donc c'est ce qui nous anime avec Kevin, c'est d'abord la voile de haut niveau et il n'y a pas d'appréhension particulière.
Alors justement, dans cette catégorie, les ultimes, vous allez avoir un parcours rallongé puisque vous devrez faire un long détour au large du Brésil avant de rallier la Martinique. Ça ne va pas être de tout repos, Kevin Escoffier.
Non, en effet, c'est un parcours qui ressemble à un début de Tour du Monde et on fait demi-tour juste avant les mers du Sud. On va avoir 2 fois passé le poteau noir, donc c'est plus de 7000 milles, donc c'est-à-dire qu'on va doubler le nombre de milles fait par le bateau depuis sa mise à l'eau, donc on part avec certaines certitudes. Par contre, on va continuer à découvrir ce bateau, continuer à le fiabiliser et je pense que c'est très important dans le cadre du projet d'arriver en Martinique pour pouvoir continuer ce projet Banque Populaire 11, mais sur un parcours qui va être exigeant et avec plein de rebondissements possibles. Donc ça va être intéressant à suivre pour le public.
Alors ce bateau, le Banque Populaire 11, vous l'avez dit, vous l'avez mis à l'eau pour la première fois fin avril, Armel Lecléache. 6 mois pour apprendre à dompter une telle machine, c'est un peu court tout de même, non?
Ouais, c'est un peu court. On aurait aimé avoir plus de temps, mais c'était le temps prévu. On le savait, hein. C'est long à construire. C'est géant des mers, c'est 2 ans de construction, un bateau qui fait 32 mètres de long par 23 mètres de large, donc ça prend du temps à construire. Et puis depuis, on n'a pas chômé, on a beaucoup navigué, on a aussi passé du temps avec l'équipe pour le mettre au point, le fiabiliser. C'est plein de petits détails et on est encore justement ces dernières heures au Havre, on profite pour vérifier que tout est prêt. C'est sûr que ce sera encore on va sûrement encore découvrir des choses pendant cette transat avec Kevin. On va encore apprendre des nouveautés sur le bateau, à nous d'en tirer le maximum. Et puis, on sera bien lancé, j'espère, pour la saison prochaine avec la route du Rhum, qui sera un gros objectif.
C'est un saut technologique, ce bateau, Armel Lecléache ?
Oui, ce sont des bateaux qui, depuis maintenant de 3-4 ans, ont la capacité de voler, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est équipé de ce qu'on appelle les foils. Hein, ce sont ces ailes un petit peu qu'on déploie sous les coques des bateaux qui permettent de sortir de l'eau et d'accélérer, d'avoir des vitesses assez impressionnantes. Donc ça, c'est beaucoup de technologie à bord pour pouvoir réussir à utiliser le bateau dans cette capacité. Donc nous, on est très heureux et surtout, on mesure la chance de pouvoir naviguer sur ces bateaux parce qu'on sait qu'on peut traverser l'Atlantique en moins d'une semaine, on sait qu'on peut faire un tour du monde en 40 jours, c'est quasiment 2 fois plus vite que sur le Vendée Globe. Mais ça demande du temps de préparation, ça demande aussi beaucoup de technique, mais c'est ça aussi qui est passionnant. Avec Kevin, on a tous les deux un cursus d'ingénieur, donc on aime aussi ce côté-là.
Il a beau être énorme ce bateau, ce trimaran, est-ce qu'il y a suffisamment de place pour 2 navigateurs chevronnés au palmarès long comme le bras, Kevin Escoffier?
Oui, largement. Et je pense que pour manier ce type de bateau, il y a justement besoin de personnes expérimentées, parce que ce qui est le plus important, c'est d'avoir des skippers qui sont bien évidemment capables de faire aller vite le bateau, mais aussi de savoir le gérer en fonction de la globalité du projet. Et donc je pense que ça va être une grosse partie de notre travail sur cette Jacques Vabre.
Ça fait quoi de partir en mer avec un chacal? Je précise que c'est votre surnom, Armel Lecléache.
Ouais, moi, je suis très très content d'y aller. Encore une fois, hein, j'ai travaillé avec Armel pendant une dizaine d'années sur ses campagnes Vendée Globe 2012-2016. Donc j'ai déjà eu l'occasion de naviguer avec lui. Et puis là, sur une régate aussi importante, j'espère que j'aurai encore l'occasion d'apprendre des choses.
Et vous avez donné quel petit nom à Kevin Escoffier, Armel?
Je ne sais pas s'il faut le dire.
Non, on va garder ça pour nous. Non, mais je suis très heureux aussi de partir avec Kevin parce que c'est notre première grande course sur un super bateau. Donc on a vraiment hâte de prendre la mer dimanche et de naviguer sur ce bateau incroyable. J'espère qu'on aura de belles conditions, qu'on n'aura pas trop de problèmes pour faire vivre une belle course à un maximum de personnes qui vont nous soutenir pendant ces deux semaines de course.
Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous ce matin. Armel Lecléache, Kevin Escoffier, le duo chevronné du Banque Populaire 11 qu'on va suivre sur cette Transat Jacques Vabre. On vous souhaite bon vent.
Merci beaucoup, bonne journée.
Il est 6h17, à tout de suite sur Europe 1 avec la partition de Native.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h20, les principaux titres de ce mercredi avec Alban Le Prince.
Bon élève, aimé de ses professeurs, voici comment Salah Abdeslam a décrit son enfance hier avant de basculer dans le djihadisme. Le dernier survivant du commando des attentats du 13 novembre était interrogé sur son parcours hier au procès. La parole est aux 14 accusés cette semaine. Après l'Italie, Israël et la Grèce, c'est en France et plus particulièrement en Bourgogne qu'Angela Merkel poursuit sa tournée d'adieu. Aujourd'hui, la chancelière sera décoré par Emmanuel Macron de la Grand Croix de la Légion d'honneur. Et puis un ancien policier afro-américain élu maire de New York. Cette nuit, le démocrate Eric Adams a remporté haut la main les élections dans la ville américaine.
On termine avec votre partition, Omblin. Et ce matin, le grand retour de la chanteuse Laura Men avec sa sœur Chris. Elle formait le duo Native qui ont fait les grandes heures de la musique soul et R&B française dans les années 90.
Native, juste un mot aux significations multiples pour évoquer les racines, les origines, la sororité et bien sûr la complicité à l'ère des boys bands. Laura et Chris se serrent les coudes pour imposer leur vision de la musique, une exigence à toute épreuve qui explique en partie leur succès dès le premier album.
C'est trop fort.
Le duo Native est créé tout naturellement au sein d'un foyer où la musique fait partie intégrante du quotidien.
Leur père est guitariste amateur de boogie et de rock. Leur frère aîné a son propre groupe au répertoire plutôt hard rock. Laura Men apprend le piano dès son plus jeune âge et passe 10 ans au conservatoire. Elle possède surtout une voix claire et puissante, un timbre qu'elle partage avec sa sœur. Très tôt, elles évoluent sur scène dans l'ombre, choristes pour d'autres artistes, jusqu'à cette année fatidique de 1991, lorsqu'elles décident d'unir leurs voix.
Alors on le raconte souvent ici, une rencontre suffit parfois à tout faire basculer.
De passer de l'ombre à la lumière, Native croise la route de Fred Versailles. C'est lui qui a réalisé le premier album de Supreme NTM. Il produit et participe à l'écriture du premier disque du duo.
Plane sur moi, ton ombre, ta voix.
Le premier album se vend par milliers et Native est récompensé aux Victoires de la musique en 1994.
Le succès et le poids de la célébrité qui va avec, les chanteuses doivent apprendre les ficelles du métier. Laura Men raconte la difficulté de se retrouver confrontée aux autres, aux critiques, aux chiffres. Mais elles restent toutes les deux animées par la même passion pour la musique et pour la scène. La tournée les emmène partout en France, mais aussi en Belgique et au Canada. Les deux sœurs profitent de cet élan de popularité qui ne faiblit pas pour sortir leur deuxième album, Les Couleurs de l'Amour, en 97.
Et puis au sommet de leur gloire, la carrière de Native s'arrête brusquement.
Oui, Chris décide d'emprunter un autre chemin. Laura Men poursuit seule, toujours sous le nom de Native. Elle revient cet automne avec l'album Native Story et avec une toute nouvelle version de la chanson signature du duo, Si la vie demande ça.
Ton sourire habite toujours chez moi, sur les murs et dans les coins de ma vie. Il me torture ou bien il me ravit. Je le garderai volontiers sur moi. Ça n'en vaut jamais la peine. C'est inutile, c'est la mort et un dilemme. C'est aussi pour ça qu'on l'aime. Si la vie demande ça, je peux la comprendre. Jamais je ne voudrais la décevoir. C'est la vie qui veut ça. Ne le voir la prendre, je sais pas. Ce n'est qu'un souvenir à présent. Trop beau et je nous en veux tellement. Que si tendrement devient un tourment. Je vais oublier les portes qui claquent. Les sauts de nos.
Native sur Europe 1, si la vie demande sa version 2021, c'est un rework avec la voix qui a complètement été réenregistrée pour annoncer la sortie de l'album Native Story en format digital le 17 novembre. Laura Men qui sera ce jour-là en concert au Trianon à Paris. Rendez-vous avec le CD et le vinyle le 26 novembre.
C'est noté, merci beaucoup Omblin. Bon réveil à tous, on se retrouve dans deux minutes autour de Dimitri Pavlenko. A tout de suite.